bonjour à vous. Bonjour François Bégodeau.
Bonjour.
Merci beaucoup de revenir à Jardin d'hiver. Merci aussi de nous permettre pendant une heure de parler d'amour. On en a sûrement bien besoin. Alors on va parler d'amour sans emphase, sans mièvrerie et sans détachement ironique. On va essayer, en tout cas c'est le programme. On va parler d'amour en laissant de côté tout ce que la fiction peut brasser de passions dévorantes, de plans resserrés sur des premiers baisers, de trahisons, de pervers narcissiques, de relations toxiques, impossibles, de thérapie de couple, et puis peut-être aussi d'introspection sans fin pour savoir si on s'aime toujours vraiment au bout de 15 ans. L'amour dont on va parler cet après-midi se vit tout simplement au quotidien, dans une forme de routine, sans coup d'éclat, mais il est là pourtant. Cet amour dont on va parler, c'est celui de Jeanne et Jacques Moreau. Notez bien que je le dis dans le bon ordre, Jeanne et Jacques, jamais Jacques et Jeanne. Si vous êtes en couple, si vous connaissez des couples, vous l'aurez peut-être marqué, il y a toujours une logique de l'ordre des prénoms. C'est dans un sens et ça ne marche pas dans l'autre. Jeanne et Jacques Moreau qui vont connaître un compagnonnage de toute une vie, 50 ans de vie commune des années 70, jusqu'à ce que la mort les sépare, comme le veut la formule consacrée. Votre roman, François Bégodeau, paru aux éditions Vertical, ça c'est un classique, s'appelle L'amour, rien que ça, pas un amour, l'amour, vous nous direz sûrement pourquoi tout à l'heure. En tout cas, c'est un titre qui tranche avec celui de vos précédents romans. Si je prends les derniers en date, Un enlèvement, En guerre, Ma cruauté, on a une petite rupture de style peut-être, et qui tranche aussi par l'épaisseur du bouquin, vous le voyez, parce que oui, vous vous êtes mis en tête de nous raconter l'amour en moins de 100 pages, ou un peu moins de 90 pages même. Je dois vous dire qu'il me paraît un peu dingue, François Bégodeau, que raconter un amour ordinaire, comme vous le faites, raconter un amour banal, qui est probablement celui que la plupart des personnes dans cette salle connaissent ou ont connu, soit perçu aujourd'hui, en 2023 ou 2024, comme un parti pris littéraire décalé, audacieux. En tout cas, ça a été présenté comme ça par pas mal de critiques. En tout cas, comme un parti pris peut-être à contre-courant de ce qui se fait. Qu'est-ce que ça dit sur l'état de nos imaginaires, sur l'amour, et peut-être sur les récits qui construisent ces imaginaires qui sont les nôtres?
Je ne sais pas si c'est un phénomène contemporain proprement parlé, mais il y a une sorte de constante, je dirais, dans une perception collective des choses qui engagerait le rapport qu'on peut avoir aux œuvres artistiques. Il y a une sorte de présupposé qu'on a plus ou moins assimilé les uns et les autres par un certain nombre de conditionnements et auxquels je suis sujet moi-même, à savoir que l'art s'emparerait de l'exception. C'est-à-dire qu'il y a, et notamment la littérature, bon, il y aurait matière à écrire quelque chose à partir du moment où on tient quelque chose de relativement exceptionnel à raconter. S'il ne s'est rien passé, il n'y a pas de livre possible. Si ça n'est jamais que la banalité du temps qui passe et des vies ordinaires sans crise particulière ou sans d'événements saillants, ben, ça ne vaut pas un livre. On va commencer un livre à partir du moment où il s'est passé quelque chose qui a été une déflagration dans le cours tranquille du réel. Par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup de livres qui partent d'un fait divers, y compris des livres très connus. Madame Bovary part d'un fait divers. Une femme dans une campagne s'est suicidée. Et Flaubert, partant de là, eh bien, va reconstituer la vie de celle qu'il appellera Madame Bovary. Donc je pense qu'on est tous un peu habités par cette perception a priori des choses. Et en même temps, dans la pratique, on n'arrête pas de déroger à ça, parce qu'il y a quand même énormément d'œuvres qu'on aime au cinéma ou en littérature, par exemple, qui ne raconte rien de très, très caractérisé. Et aussi, où ça deviendrait peut-être plus subtil, c'est que qu'est-ce qu'on aime vraiment dans une œuvre, quoi ? Ce serait intéressant. Est-ce que, par exemple, une œuvre qui part d'un fait divers, ce qui va nous intéresser, c'est quoi ? C'est le fait divers en tant que tel, ce jour-là, X a tué Y ? Ou est-ce que c'est la vie d'X et Y qui, du coup, va nous être racontée ? Comment en sont-ils arrivés là ? Et là, ma foi, on va raconter des vies ordinaires. On va raconter X, Y, peut-être qu'ils se sont connus, ils ont vécu un amour ou pas, ou peut-être qu'ils étaient voisins, et que très quotidiennement, il y avait une rivalité entre eux, une rivalité économique, une rivalité sociale, une rivalité psychologique. C'est ça qu'on va déplier. Et à la page 323, on arrivera au crime. Et là, il y aura une exception. Mais tout ce qu'on aura raconté par la suite aura cette espèce de patte de la réalité. Je crois qu'en fait, contrairement à la perception majoritaire, si on creusait nous-mêmes ce qu'on aime dans les œuvres, on s'apercevra qu'on y a tous les goûts sont dans la nature. Hein. Donc je ne veux pas généraliser, mais il me semble que, y compris ceux qui disent par exemple qu'ils vont au cinéma pour s'évader, après quand on leur demande mais c'est quoi ton film préféré ou un film qui t'a marqué là depuis 6 mois, on s'aperçoit que c'est un film assez réaliste qui racontait, ou ils vont dire à l'inverse par exemple, ah ouais moi je me suis vachement identifié. Ah mais c'est bizarre, alors donc tu vas pour t'évader, c'est-à-dire sortir de toi. Et en même temps, tu es en train de me dire que tu as aimé ce film parce que tu t'y es reconnu. Et donc, on est tous un peu clivés, on est tous un peu ambivalents. C'est-à-dire qu'on, devant l'œuvre d'art, on veut quoi ? On veut se reconnaître ou on veut s'évader ? On veut échapper à soi-même ou on veut se retrouver ? Bah, c'est un peu les deux. Et en revanche, bon, je pense qu'il n'y a rien de très original, finalement, pour finir avec cette longue introduction. Ce n'est pas si original que d'avoir raconté un amour ordinaire, et il n'est pas si étonnant que ça ait pu plaire à des gens. Parce que je crois qu'en fait, c'est aussi des habitudes de lecture qu'on a tous.
Je gratte un peu sur votre intention. Donc, écrire un amour ordinaire, à quel moment vous avez décidé que ça allait faire un livre ? Et je précise un peu, est-ce qu'il faut voir dans ce livre une contribution, peut-être une réponse aux réflexions qui courent aujourd'hui, qu'on entend pas mal dans les médias, dans l'espace public, je pense notamment aux réflexions féministes, dans la traîne de MeToo sur le fait de réinventer le couple, de déconstruire l'amour, de reposer les bases de l'amour. Ça en fait partie, en tout cas la temporalité de la parution de ce livre peut être mise en lien avec cette actualité, si tant est que c'en est une.
Je vais vous décevoir, parce que je dirais non.
Je n'attendais pas de réponse précise. Hein.
Non, je dirais non, parce que l'un n'empêche pas l'autre et les deux m'intéressent. Je veux dire, moi, tout ce qui est... Le programme rabaldien de réinventer l'amour m'intéresse, puisque... d'un certain point de vue, et considéré sous un certain angle, il y a quelque chose de pourri au royaume de l'amour. Je veux dire, l'amour tel que vécu par les gens, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas les grandes théories sur l'amour, c'est comment les gens le vivent. Et de fait, nous pouvons constater dans nos propres vies ou dans les vies de nos voisins ou de nos cousins que l'amour, souvent, pas toujours, fait mal. L'amour peut être conflictuel, l'amour peut être déceptif, l'amour peut être douloureux. Les histoires d'art, en général, finissent mal. Oui, beaucoup d'histoires d'amour finissent mal et finissent même par des coups, par des crimes aussi. Hein, ça se fait beaucoup quand même. Hein. Donc oui, il y a une espèce de livre noir de l'amour et il y aurait quelque chose à repenser là-dedans, quoi, dans notre accoutumance ou notre addiction à ce modèle qui ferait qu'une vie sans amour ou une vie sans qu'on ait réussi à fabriquer un couple un peu durable serait ratée. Ça, c'est quelque chose que je trouve politiquement urgent de déconstruire. Auquel cas, je m'associe totalement à ce que vous appelez la séquence MeToo, mais dont je trouve d'ailleurs qu'elle ne... D'une certaine manière, moi, je suis plus MeToo que MeToo, parce que je pense que la structure familiale, par exemple, qui est quand même un petit peu une extension de la structure du couple, je ne vois pas qu'elle soit si déconstruite que ça et si interrogée que ça dans l'effort conceptuel et politique du moment. Je pense que c'était beaucoup plus le cas dans les années 70, par exemple, où le féminisme des années 70, non pas que je crois qu'il est plus intéressant que celui de maintenant, tout ça, ça fait partie de l'histoire, mais il était plus centré sur l'idée que la famille était un élément d'oppression patriarcale et de domination masculine fondamentale, et peut-être même que le couple lui-même était la microcellule du patriarcat, et qu'à ce titre-là, il était intéressant de l'interroger comme un espèce d'automatisme social. Bon, moi, tout ça me passionne, et je peux d'ailleurs faire des choses qui vont dans ce sens-là, dans mon travail. Mais il y a un temps pour tout. Et puis après, il y a un autre truc, il y a d'autres émotions, il y a d'autres régimes d'émotions qui vont susciter d'autres formes de livres. Et je dirais que l'émotion première qui fabrique l'amour, enfin le livre, c'est la tendresse ou l'émotion que me vient toute considération politique mise à part devant ce que j'appelle les couples durables. C'est quelque chose qui m'inspire de la tendresse. Et donc c'est cet élément de tendresse qui va me lancer dans ce livre, plus un autre élément qui est effectivement le constat que, non pas dans la société en général, mais dans le champ littéraire, finalement, ces amours-là sont peu racontés. C'est peu raconté. Ça doit exister, mais je n'ai pas lu tous les livres. En général, c'est vrai qu'on va plutôt se fonctionner sur l'amour là où il est passionnel, là où il est déchirant, là où ceci, cela. Autant de choses passionnantes qu'ont donné des très grands livres. Mais c'est vrai qu'on fait assez peu justice en général dans les récits cet amour à qui n'arrive pas grand-chose, quoi, dont la substantifique moelle est sa temporalité même, quoi. C'est juste le fait que ça dure, quoi. Donc c'est ça qui me lance un moment dans cette entreprise qui est d'écrire ce livre, avec peut-être aussi en troisième truc, il y a plein de motivations pour écrire un livre, mais une des autres motivations, c'est il faut bien le reconnaître, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut habiter un écrivain quand il se met au boulot, c'est le défi. c'est le défi, puis la curiosité adressée à moi-même de est-ce que ça peut tenir un livre comme ça ? Est-ce que ça peut tenir ? Est-ce que tu es capable de faire tenir un couple sur 50 ans dans un, est-ce que tu peux mener à bien ça ? Et qu'est-ce que ça peut donner comme littérature ? Donc j'étais assez curieux de... En fait, j'ai écrit ce livre pour voir si, c'était, si le livre était possible.
C'était forcément un roman dans votre esprit dès le début, parce qu'il y a le François Bégodeau qui écrit des essais aussi, le François Bégodeau politique, qu'on a entendu et vous avez raison. En tout cas, moi, je vous rejoins, l'amour est politique. En tout cas, il y a plein de choses à en raconter. C'était très clair pour vous, dès le départ, que l'entreprise allait être littéraire, romanesque.
Oui, oui, oui. De toute façon, je pense que c'est même comme ça que l'idée apparaît. Elle a, c'est pas comment dire, c'est pas genre j'ai une idée et après je me dis je vais en faire un roman ou un essai. C'est qu'elle m'apparaît tout de suite comme devant être menée à bien dans les crins d'un roman. C'était tout de suite. Je savais que ça serait purement fictionnel, que voilà, j'allais inventer ce couple, pas ex nihilo puisqu'on n'invente jamais rien ex nihilo, donc on s'inspire de la vie comme à peu près toutes les fictions. La fiction, c'est pas une dissociation du réel, c'est une certaine, un certain réagencement du réel, c'est ça la fiction. Et donc j'ai su tout de suite que, un, le livre serait un récit, deux, qu'il serait fictionnel, trois, qu'il serait court. Ça, c'était évident, c'était la structure de base, puis après, je me suis mis au boulot.
À un seul passage dans ce livre, on peut trouver quelques lignes qui énoncent l'amour, je dirais même qui soulignent vraiment l'amour, qu'il pose formellement. Ce sont des lignes prononcées par un prêtre, c'est lors du mariage du fils de Jeanne et Jacques. Donc, il s'agit d'un texte chrétien, un extrait du Nouveau Testament. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Prêtre, mariage, Bible, amour qui supporte tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Bégodeau ? C'est pas hyper punk, ce passage-là. En tout cas, moi, j'ai un petit peu toussé. Alors, on va peut-être lever éventuellement certaines frayeurs. Pourquoi avez-vous mis ce texte dans ce livre ? Moi, je me suis étonnée. J'ai l'impression que toutes les personnes qui vous interviewent, et je le fais, je ne déroge pas à la règle, vous lisent ce texte et s'en émeuvent beaucoup. C'est vrai qu'il est très beau, mais il pose aussi un certain type d'amour. Là, on est plutôt dans une configuration, on va dire, assez tradie, conservatrice.
Bah, d'abord, il y en a même certains qui m'interrogent sur ce passage en me disant « Mais c'est très, très beau ce que vous avez écrit là, François. » Et en général, je ne dément pas. Je dis oui, effectivement, j'étais particulièrement inspiré. Pour moi, l'espace du roman et l'espace de l'art consiste pas forcément à mettre sur une feuille blanche des énoncés auxquels on adhère et des énoncés dont on attend que notre lecteur y adhère. C'est-à-dire que là s'exprimerait une sorte de thèse sur l'amour. Cette thèse, je la partage et j'entends bien que mon lecteur la partage aussi. Non, la littérature, ce n'est pas un tract. Et donc, ce que moi m'intéresse dans la littérature, c'est de faire entendre des trucs auxquels je n'adhère pas forcément, sur lesquels d'ailleurs je peux être hésitant, simplement je les trouve intéressants. Voilà. C'est comme décrire un personnage, vous n'adhérez pas forcément à votre personnage. Vous ne trouvez pas que tout ce que fait votre personnage doive faire modèle ou faire exemple, simplement vous trouvez ça intéressant. C'est notamment, c'est a fortiori vrai quand vous prenez un personnage de toute évidence négatif. Si à un moment vous décidez d'organiser votre roman autour d'un serial killer, bon, sauf perversion majeure de celui qui écrit, et pourquoi pas d'ailleurs, mais en tout cas ce ne serait pas mon cas, j'ai une petite sympathie pour le serial killer, mais ça ne va pas plus loin. Hein. Franchement, c'est voilà, quand on se croise, on se dit bonjour. Mais... Non, mais en tout cas, si je le faisais demain, c'est parce que je trouve le personnage intéressant. Et ça ne veut pas dire que je... Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire, il faut tuer les gens en série. Non, donc la littérature, c'est ça. Et là, le texte de Saint-Paul, je le trouve passionnant. D'abord, je le trouve beau. Il y a une formule notamment, c'est sur le vrai, la vérité, j'ai oublié, en fait, qui trouve,
sa joie dans ce qui est vrai.
Ah ben, ça, alors là, pour le coup, ça, j'adhère. Ça, c'est plus une question d'amour, c'est plus une question de Saint-Paul. Pour moi, ça, c'est... Alors, s'il y a bien, moi, je pourrais réduire mon programme de vie à ça. C'est trouver sa joie dans ce qui est vrai. Ça vous fait une vie, hein, si vous réfléchissez vraiment. La joie de la vérité en tant que vérité, quelle qu'elle soit, et quoi qu'il en coûte. Quoi. Ça, c'est passionnant. Mais tout le texte est beau. Je veux dire, c'est un texte qui m'a toujours ému. De toute façon, j'aime, le Nouveau Testament est un texte que j'aime beaucoup en général. Les textes de Saint Paul aussi. Je ne suis pas croyant, et pour autant, ça me touche. Donc, c'est intéressant, ces espaces-là, vous voyez, qui ne sont pas des espaces d'adhésion, qui sont des espaces d'intérêt. Peut-être que c'est un prémisse de foi. Peut-être qu'il y a une foi en moi qui me travaille déjà et qui finira par se consommer. Je n'en sais rien. En attendant, c'est des textes que je trouve beaux. Et j'avais envie, à un moment, de le placer. Et puis, il m'a fallu pour ça une occasion fictionnelle. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas tomber du ciel, ces phrases-là. Donc, il y a un mariage et le prêtre le lit, parce que ça se fait dans les mariages. Moi, c'est un texte qui est un classique. Hein, je veux dire, c'est un texte presque devenu une tarte à la crème, d'une certaine manière. Il n'y a rien d'original là-dedans. Mais c'est beau. Donc, voilà, on l'entend comme une suggestion et ça ne vaut pas. Tu vois. Après, fondamentalement, c'est vraiment, j'allais dans le sens de votre question. Tiens, où est passé le Béglopunk quand il fait ça? Bon, moi je pourrais, ça serait facile pour moi. Je ne sais pas si ça serait complètement crédible, mais en tout cas, ça serait jouable de vous signifier que l'avènement primitif du christianisme est révolutionnaire. Mais vraiment, je pense que la figure du Christ est révolutionnaire. Prise d'un certain point de vue, etc. Le Christ, c'est pas l'Église catholique. L'Église catholique, en tant qu'institution relativement coercitive ou oppressive, n'est pas révolutionnaire. Mais le christianisme est une pensée révolutionnaire, et le Christ est une pensée révolutionnaire. Donc saint Paul, qui est un peu l'inventeur du christianisme, hein, il va formaliser d'une certaine manière le message très laconique du Christ. Et ben, il y a des choses dans saint Paul que je trouve extrêmement révolutionnaires. Et d'ailleurs, peut-être que je pourrais aussi tenir le pari que, et encore une fois, je ne suis pas complètement sûr de ce que je dis, mais c'est des choses sur lesquelles je peux réfléchir par moment, que l'amour durable, l'amour inscrit dans une temporalité longue, est peut-être effectivement un contrepoison possible à l'hypercapitalisme dans lequel nous vivons et qui, en gros, a pour caractéristique de consommer, anéantir tout ce qui bouge en même temps. Je consomme, j'anéantis. On ne peut pas dire que le temps long soit le temps du capital. Donc, bah, opposer, disons, produire des modèles qui, au contraire, promeuvent le temps long, je pourrais très bien tenir que c'est très subversif par rapport au régime économique et social dans lequel nous baignons.
J'ai vu dans cet extrait... surtout un écho à ce titre que je soulignais en introduction, l'amour qui est très explicite. Je me suis dit qu'au-delà peut-être de la façon dont il sonne, vous l'aviez glissé dans le texte aussi pour bien indiquer à votre lecteur ou lectrice qui n'auriez pas compris qu'on est bien dans un livre sur l'amour et que même si vous n'utilisez pas dans ce roman, c'est un des partis pris littéraire que vous évoquiez, vous n'utilisez pas tous les marqueurs classiques de l'amour. Je parlais de ce plan serré sur le premier baiser. La rencontre entre Jeanne et Jacques n'est pas une vraie rencontre. En tout cas, on ne peut pas dire à quel moment exactement ils se rencontrent avec ce R majuscule. Voilà, c'était ma lecture. Peut-être justement sur le fait de ne pas utiliser ces marqueurs classiques de l'amour. On peut en donner un exemple avec ce premier baiser qu'on ne voit pas parce que vous utilisez un effet très cinématographique. On n'est pas sur la bouche de Jeanne et Jacques, on est sur le chien qui est en train de rapporter la balle au couple. Ça doit être très jouissif d'écrire un roman d'amour en zappant tous ces poncifs, tous ces clichés du cinéma, non?
Oui, peut-être qu'il y a un petit peu... Bah, je ne sais pas, cette scène-là, effectivement, peut-être que ça témoigne d'une certaine zoophilie de ma part. J'ai l'impression que... Finalement, le point névralgique érotique de cette scène, c'est le chien. C'est pas du tout le baiser entre... Peut-être, allez savoir s'il n'y a pas un inconscient zoophile au travail. Indépendamment de ça, je pense que c'est des trucs un peu techniques, c'est un artisanat littéraire, c'est... Bon, alors je vais essayer d'être court. Mais premièrement, je dirais, quand vous avez une scène de premier baiser à faire, des scènes de premier baiser, on en a vu plein. Il y en a plein dans la littérature et dans le cinéma. Je prends ces deux exemples parce que c'est un peu les deux arts majeurs du récit, quoi. Qu'on fréquente beaucoup. Quand vous vous levez le matin et que vous avez, ça y est, c'est le moment de faire cette scène. Vous savez qu'à un moment, il faut bien, bah, puisque vous allez suivre des gens pendant 50 ans, il y a bien un moment, il faut qu'ils s'embrassent pour la première fois, quoi. Et alors, vous allez le faire comment, ça? Tout est possible, quoi. Vous pouvez le faire. Alors, d'abord, vous allez le situer où? Bon, moi, ça sera en forêt, à propos de telle ou telle promenade. Bon, mais vous allez négocier comme ça comment, de sorte que la scène soit quand même un tout petit peu originale, qu'elle soit inédite, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit rebattu et déjà vu. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est peut-être de dédramatiser le premier baiser. C'est-à-dire, je pense qu'un premier baiser qui peut être filmé comme un moment de grande extase, parfois, filmé ou raconté comme un moment d'extase, enfin, il s'embrasse, et là, vraiment, bon, voilà, alors que ça faisait 6 mois qu'on se tournait autour... Là, ça y est, nos pulsions se donnent libre cours. Et là, c'est un grand, grand moment de... Bon, oui, mais sans doute, sans doute que Jeanne et Jacques y prennent un certain plaisir, ce que je ne note pas, mais ça n'empêche pas qu'ils y prennent du plaisir. Tout ce n'est pas parce qu'on ne note pas quelque chose que ça n'existe pas. On peut dire aussi qu'un premier baiser, c'est toujours aussi un moment un peu balourd. C'est comme le premier rapport sexuel, quoi. Je veux dire, on peut dire, ah, enfin, ils couchent ensemble. Ça fait 6 mois qu'ils pensent l'un à l'autre, nus, dans leur masturbation respective. Et là, ça y est, ils couchent, c'est génial. Bah oui, en fait, des fois, c'est pas génial. Parce que précisément, on l'a tellement attendu qu'on est un peu inhibé. Et puis, il y a deux corps qui doivent s'acclimater l'un à l'autre. C'est rarement la première fois que c'est le mieux. Tout le monde connaît ça. Et donc, si vous avez à décrire un premier rapport sexuel, bah, il faudra à la fois rendre compte d'une certaine. Quand même d'un certain enthousiasme, une certaine euphorie d'enfin y être, quoi, et du désir et du plaisir qu'on y prend, mais pas que. Il faudra que ce plaisir soit un peu mélangé de plein d'autres choses, mélangé de la timidité qu'on a à découvrir nos corps, de peut-être s'ajuster, peut-être aussi la pression qu'on se met, il faut que ça se passe bien, et donc plus on se met la pression, moins ça se passe bien. Enfin, il faudrait tout ça, en fait. En fait, c'est toujours le réel qui prime, quoi. C'est-à-dire qu'essayer d'être le plus riche possible avec le réel. Donc là, bon, moi, ce que j'essaie d'inscrire, c'est ce premier baiser dans une situation où il se passe plein d'autres choses, quoi. C'est-à-dire qu'il fait froid, c'est la forêt, il y a des animaux, il y a le chien, c'est pas rien, le chien, il court, il est quand même, bon, c'est un élément, il fait partie de la situation, il fait partie de l'ensemble sensoriel que vous allez restituer. Et bah oui, ça s'embrasse, et il y a le chien qui vient chercher la baballe qui est au pied de Jacques au moment où ils sont en train de s'embrasser. Bah ouais, ça s'appelle une situation, tout le monde a vécu ça. C'est des choses qui sont souvent occultées quand on veut faire monter un petit peu le lyrisme, quoi. Comment vous arrivez à faire monter le lyrisme en général, c'est que vous abstrayez votre scène. Vous l'extrayez du bain matériel dans lequel elle a eu lieu. Or, nous sommes toujours dans un bain matériel. Donc encore une fois, si je prends l'exemple un peu plus hardcore d'une scène sexuelle, d'ailleurs, il y a un moment où ils se mettent à coucher ensemble. Et je n'ai pas exactement raconté leurs sensations en couchant ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est de restituer ça dans le bain de la vie, qui est un bain assez prosaïque, qui est que bah, il se retrouve dans un hall d'hôtel parce que Jeanne travaille à l'hôtel, Jacques la rejoint un soir parce qu'il la drague, et bah, ils sont pris d'une pulsion comme ça de coucher ensemble, ce qui est tout à fait normal, ouais, bah, sauf qu'il se pose un problème matériel, c'est où est-ce qu'on va coucher ensemble, enfin, pas dans le hall de l'hôtel, quand même, ça se fait pas, surtout que des clients pourraient arriver, bon... Comment est-ce qu'on peut faire, quoi ? Vite fait, comme ça, dans la remise, ouais, mais ça va pas être confortable. Hop, Jeanne, elle réfléchit à 1000 à l'heure et elle dit « Tiens, peut-être il y a des chambres de libre, on va monter dans les étages et on va emprunter une clé et puis on va coucher dans un lit. » Ben voilà, vous voyez, c'est tout ça en fait. Moi, la vie me passionne parce qu'elle est riche comme ça, parce que dans une même situation, vous avez tout un tas de registres mélangés, quoi. Et moi, la littérature, je trouve qu'elle est bien quand elle arrive à restituer dans la même scène tout un tas de modalités de la vie qui fait qu'on est capable de romantisme et qu'on est à la fois très prosaïque, que dans le même temps on peut penser à je l'embrasse, je l'adore, et en même temps à ce chien qui me fait chier. Et ben oui, c'est la vie.
J'aimerais qu'on parle de la question de la pudeur. Alors on n'a pas dit grand chose encore sur Jeanne et Jacques, ils sont tous les deux d'un milieu populaire. Vous ne nous les montrez pas en train de se faire des déclarations enflammées, en train de se dire qu'ils s'aiment, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. J'ai l'impression qu'on peut assez facilement, et peut-être à tort, se dire que c'est parce que ces personnages-là viennent d'un milieu populaire qu'ils font preuve d'une réserve, d'une pudeur. Mais je me demande aussi s'il n'y a pas finalement une question qui toucherait plus à la pudeur de l'auteur aussi, dans ce qu'il raconte et puis dans ce qu'il va choisir d'ellipser et de laisser à la libre imagination du lecteur ou de la lectrice.
Non, mais c'est, vous avez assez bien fait le tour de la question, je trouve...
Je devrais faire la rencontre toute seule.
C'est vrai, tout à fait. Je vais me taire. Mais alors, ce livre, L'amour, comment, ça vous est venu comment, enfin ? La page 32, vous dites que c'est une phrase merveilleuse. Hein. Comment ça vous est venu, ce génie ?
Je me tais maintenant, je vous écoute.
Non, mais c'est tout ça qui fait que le livre va peu à peu inventer sa propre texture, sa propre atmosphère, son rapport au monde. C'est à la croisée de tout un tas de choses qui seraient, oui, peut-être une petite considération sociologique, mais très discutable et très incomplète, à savoir, dans les classes populaires, on est plus pudique. C'est vrai, mais c'est pas si vrai. Donc, bon, ok, ça joue un peu, mais ça peut pas faire la blague. Parce qu'on trouvera des gens dans les classes populaires qui sont particulièrement exubérants et expressifs, et dans les classes bourgeoises, au contraire, des gens très inhibés et qui ne témoignent pas de leurs sentiments. Donc, il faut se méfier de ce genre de truc. Mais oui, de fait, je pense que travaillait en moi l'idée que, notamment Jacques, je ne le vois pas très prodigue en mots amoureux. Je ne sais pas, je le vois comme ça. C'est un type qui vient de la paysannerie. Alors là, se met en place un cliché qui est « paysan taiseux ». Oui, mais comme tous les clichés, c'est un peu vrai quand même. Moi, j'ai grandi avec mon grand-père était paysan, c'était un taiseux. Et mon père, qui vient un peu de là, est plutôt taiseux. Donc, c'est pas si con. Mais en même temps, c'est pas que ça. Donc, il y a aussi, effectivement, intervient probablement, oui, on pourrait appeler ça la pudeur de l'auteur, ou plutôt la réticence de l'auteur à donner dans un registre lyrique qui lui paraît un peu frelaté, quoi, qui lui paraît peut-être aussi trop rebattu, pour être tout à fait honnête. Donc essayer de prendre des choses un peu différemment. Et je trouve peut-être plus beau et plus émouvant de faire passer l'amour par plein d'autres choses que par les mots. Sans doute parce que ça m'émeut plus quand vous avez le petit geste où il y a tout l'amour dedans. Là où peut-être une lettre d'amour qu'aurait écrit Jeanne à Jacques ou Jacques à Jeanne, parce qu'ils se sont peut-être écrit des lettres d'amour, c'est tout à fait possible. Moi, j'étais tombé sur des lettres qu'avait envoyées mon grand-père à ma grand-mère à l'époque où j'avais 20 ans. Ma mère a gardé ça, donc on lisait ça récemment. Je trouvais ça bouleversant, quoi, que mon grand-père Eugène écrive des trucs pareils à ma grand-mère Alice, quoi, tous les deux étant morts, ce qui ajoute un peu à l'émotion de la chose, quoi. Et c'était quand même pas rien. Bon, mon grand-père était un gendarme, donc c'était pas quelqu'un. Donc il était de droite, comme souvent les gendarmes. Non, en plus, c'est pas si vrai, c'est plus subtil. Bon, non, c'est un mec que j'aimais bien, que j'ai peu croisé, d'ailleurs, s'il est mort assez tôt. Et alors, en tout cas, moi, je l'ai toujours connu très taiseux, et donc je le voyais à la lyrique. Donc bon, voilà, c'est très beau aussi, lyrique. Mais peut-être, comme écrivain, j'avais pas trop envie d'aller là-dedans, et je préférais réfléchir à cette idée que l'amour est partout et nulle part, et qu'il se pose un peu dans les petits détails, dans les machins, dans les gestes, et que c'est ça, sans doute, un couple durable, parce qu'il y a quand même un moment où, quand bien même on se serait déclaré explicitement notre amour dans les premiers temps, il y a un moment où on ne se le dit plus. Je veux dire, il y a plein de couples durables, au bout de 10-20 ans, ils ne se disent plus trop « je t'aime » le matin. Il y en a, mais... Pff, Alexandre Jardin fait ça, mais bon... Vous voyez, quoi, déjà tout est dit, quoi. J'aime bien casser ce mec. C'est grand plaisir.
Bon, les fans de Bégodeau Punk auront eu leur petit moment.
Ouais. Mais ils le méritent. Non, mais après, oui. Donc, comment est-ce qu'on se manifeste encore l'amour ? Moi, je me souviens, par exemple, moi, mes parents sont séparés à l'âge de 50 ans, assez banalement d'ailleurs, et donc ce n'est pas mes parents que je raconte. Mais il est bien évident qu'à partir du moment où je racontais un couple durable qui naît plus ou moins dans les années 70, moi, mes parents se sont rencontrés en 60, donc ce n'est pas exactement la même chose. Enfin, globalement, je pensais un peu à mes parents aussi, puis ça a été la première documentation que j'ai eue quand j'étais gamin sur qu'est-ce que c'est qu'un couple qui vit ensemble. Bon, ben, moi, je n'ai jamais vu mes parents être très, très lyriques l'un avec l'autre, mais je les ai vus faire des gestes, des petits machins qui m'ont toujours beaucoup ému, même quand j'étais gamin ou ado. C'est mon père qui... C'est des trucs très cons, quoi. C'est mon père qui sort la vaisselle du lave-vaisselle. C'était son boulot à la maison, quoi. Parce que, c'est un couple assez de gauche, mais enfin, globalement, c'est quand même ma mère qui foutait tout. Mon père en foutait pas une, en tout cas pas dans les trucs ménagers. Bon, cela dit, avec ce truc très classique que j'ai récupéré dans une engueulade dans Eugène et Jacques, à savoir ma mère disant toujours tu fous rien, mais dès que mon père essayait d'aider la cuisine, ma mère lui disant évidemment mais casse-toi d'ici, de toute façon tu t'es plus nuisible qu'autre chose. Bon, tu sais, donc on connaît bien ce petit cirque. Donc mon père faisait beaucoup de choses comme bricolage, mais pas voilà, c'était très sexué. Mais il faisait le lave-vaisselle. Et mon père sortant les assiettes et les couverts du lave-vaisselle ou les y rangeant, peu importe, avec une grande délicatesse, alors que ça fait du bruit, la vaisselle, comment on sait. Pourquoi ? Parce que ma mère faisait la sieste et ma mère avait des petites migraines, parfois des grosses, mais parfois des petites, et que donc le moindre bruit pouvait la déranger, la réveiller, etc. Bon, pour moi, ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour et c'est émouvant, c'est tendre, parce qu'au moment où mon père fait ça, il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Il le fait inconsciemment, une espèce d'assimilation de la tendresse qu'il a pour qu'il avait à l'époque avant de la plaquer brutalement en 1991.
Quand on n'a pas le lexique classique, ordinaire de l'amour et de son emphase, on a donc les gestes et puis il y a toutes ces petites évocations que vous glissez, et notamment, je pense, aux chansons, la variété française. Alors, il y a cette chanson, par exemple, que choisissent Jeanne et Jacques pour leur mariage, vous savez, pour ouvrir le bal, cette chanson sur laquelle on danse et puis sur laquelle eux chantent, Johnny et Sylvie Vartan. Si tu n'es pas vraiment l'amour, si tu lui ressembles, et puis ça termine même, vous citez juste cette phrase, je crois, dans le livre, mais à la fin, c'est « ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux ». Il y a toute une bande-son dans votre livre. Et puis, il y a bien sûr Richard Cocciante dans cette bande-son. Richard Cocciante, c'est... Alors, c'est ma lecture très personnelle là que je vous livre, hein, mais je pense qu'on n'en est pas très loin. C'est, je crois, le jardin secret de Jeanne. C'est probablement sa grande passion telle qu'on l'imagine dans les romans. Elle est fan de Richard Cocciante et Jacques l'appelle le Rital Moche, donc on imagine bien qu'il se joue quelque chose derrière. C'est important pour vous, cette cohabitation entre cet amour ordinaire et puis ce petit rappel, alors, qui encore une fois n'est peut-être que ma lecture, des grands fantasmes là, qui, pour le coup, colleraient plus à ce que nous vend la grande littérature sur ce qu'est l'amour avec un grand A.
Bah après, il y a, je dirais plus concrètement, mais ça va revenir à ce que vous pointez comme hypothèse, mais il se trouve que factuellement et narrativement, le livre commence pas du tout par Jeanne et Jacques, mais Jeanne qui s'entiche, alors qu'elle a 20 ans, pour un jeune homme du village ou du bourg dans lequel elle est, d'une petite moyenne ville, très petite ville des Mauges, et qui se trouve avoir un prénom italien. Donc on peut supposer qu'il est d'origine italienne, comme il est souvent arrivé dans certaines classes populaires, notamment dans ces années-là, parce qu'il y avait une grande immigration italienne qui avait donné comme ça des ouvriers, des mineurs, des choses comme ça. Et donc, il n'est pas exclu que bon, cet amour ne donnera rien, et elle va finalement faire sa vie avec Jacques. Bon, premièrement, on ne fait pas forcément sa vie avec ce qui a été notre première idée. C'est intéressant de le rappeler. Ben oui, c'est cruel, en même temps c'est beau, vaillable, c'est tout, c'est intéressant. On ne fait pas forcément sa vie avec ce qu'a été celui ou celle qui nous aura procuré les plus grands émois amoureux. C'est intéressant. Bon, et alors après, peut-être qu'effectivement Richard Cochante, qui lui-même a une connotation italienne, je crois qu'il est franco-italo-vietnamien, c'est compliqué Richard Cochante, il y a des mélanges, enfin, c'est n'importe quoi, mais il a chanté en italien, donc il est connoté un peu italien, il en a un petit peu le physique, Cochante, tout ça. Et puis la variété italienne, c'est pas rien. Et donc, aller savoir si dans sa passion pour ce chanteur ne survit pas quelque chose d'une nostalgie de ce qu'aurait été ce bref amour non consommé avec cet Italien de départ. Et donc, alors ça, c'est intéressant parce que vous pouvez être un couple durable, peut-être même a fortiori, vous serez d'autant plus durable que vous tolérez que l'autre ait précisément un petit jardin secret, qu'il ait une vie fantasmatique hors de vous. Voilà. Je pense qu'il faut le tolérer pour rester longtemps avec quelqu'un. Il faut tolérer, sauf à être vraiment coercitif et bête. Et ça va mal finir. Mais quand bien même la personne avec qui vous vivez est très amoureuse ou amoureux de vous, ça ne veut pas dire que vous épuisez totalement sa vie fantasmatique. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs, d'avoir une vie fantasmatique plus large que notre propre vie. Donc, quand elle écoute Richard Cochante, peut-être qu'il y a un registre érotico-amoureux qui se réveille en elle et que Jacques n'aura pas complètement satisfait, parce que Jacques est Jacques. Jacques, il est ce qu'il est, il n'est pas plus que ce qu'il est, ni moins. Et voilà, et je trouve que c'est intéressant. C'est un truc que j'aime beaucoup à la fin du... Ça me vient maintenant... Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, j'imagine que oui, parce que le film a eu une certaine visibilité, mais il y a un film qui est sorti il y a 6 mois, qui s'appelle L'été dernier, film de Catherine Breillat avec Marie Drucker, et qui est bon, d'abord un très grand film, je trouve, et Léa Drucker, j'ai dit quoi, Marie, ouais, beaucoup, bien moins bonne actrice, Marie Drucker, ou alors meilleure actrice dans un certain registre. Bon, j'ai pas dit Michel, c'est déjà ça. Hein. Donc Michel Drucker joue le rôle de la femme, c'est que ce film... Et donc, il est mort, Drucker ? On sait jamais. Hein. On ne sait plus du tout où il en est, mort, vivant. Il est un peu entre les deux. Je sais pas. Il nous enterrera tous. Hein. Comment ça va ? J'avais 3 ans, il était déjà à la télé. Et à mon enterrement, le mec sera là, quoi. Il fera peut-être un discours. François Bégodeau.
De Saint-Paul.
Formidable écrivain. C'est pas de ça que je parlais. Je parlais d'un film, ça s'appelle donc L'été dernier. Bon, je vais pas le raconter, mais très très vite. Bon, c'est une femme qui a une passion sexuelle. Elle est mariée, bourgeoisement mariée, avec un homme. Tu vois. Elle a une passion sexuelle pour un jeune homme. Voilà. Et à un moment, le jeune homme revient. À un moment, il est plus là, puis il revient. Et elle recouche avec lui. Et puis elle retrouve le lit conjugal juste dans la foulée. C'est un petit peu. Bon. Et le mari a compris. Le mari a compris qu'il ne se débarrasserait pas comme ça de ce jeune homme. Mais le jeune homme, en fait, on s'en fout. Le jeune homme est en fait le symbole de la vie fantasmatique de sa femme. Et elle vient de coucher avec lui, le mari le sait très bien. Et il lui dit, c'est la dernière phrase du film, il dit, ne me raconte pas, ne me dis rien. Voilà, ça je pense que c'est fort. Ça a été d'ailleurs interprété comme un espèce de sommet d'hypocrisie bourgeoise, c'est-à-dire je ne veux pas savoir, on balaye la poussière sous le tapis. Moi qui suis assez peu sympathique en général, empathique vis-à-vis de la classe bourgeoise, je pense que c'est pas ça. Cette fin, elle est beaucoup plus belle que ça. C'est, je sais qu'il y aura toujours en toi un registre fantasmatique qu'il s'incarne avec un jeune homme ou avec autre chose, qui m'échappera toujours, et je l'accepte, simplement ne m'en parle pas. Il ne faut pas trop déconner non plus, quoi. Tu ne vas pas me raconter ta vie. Et je trouve que là, il y a quand même toujours une espèce de pacte tacite un peu dans les couples durables qui est un peu ça, c'est la tolérance au fait que l'autre a quand même une vie qui nous échappe, quoi. Je glose un peu, mais en tout cas, je trouve ça toujours très beau. Et je pense que, d'ailleurs, il y a un épisode adultère entre Jeanne et Jacques, et je pense que le pacte qui se noue entre eux, ce qui aurait pu être négocié vraiment sous forme de crise, va être négocié sous cette forme-là d'acceptation, genre bah, c'est des choses qui arrivent, il est tout à fait normal que ça arrive et on va continuer quand même.
Jeanne et Jacques, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de description physique, mais c'est très bien. On n'accède pas à leurs états d'âme. En revanche, ils ont des goûts, ils ont des habitudes, ils ont des petites manies. Est-ce que quand ces personnages vous viennent, est-ce qu'ils vous viennent séparément, l'un après l'autre, ou est-ce que vous les imaginez directement en couple? Comment le couple va fonctionner? Comment les relations entre eux vont fonctionner?
Bah, disons, dans l'ordre du livre, comme je passe quand même 20 pages, ce qui est beaucoup sur un livre de 90, c'est une portion pas négligeable quand même, c'est que les 20 premières pages, ils sont séparés, ils ne sont pas encore ensemble. Et donc, la narration alterne entre l'un et l'autre. On passe de Jeanne à Jacques, de Jacques à Jeanne, et puis un peu, ils vont se rencontrer. Et là, à partir de ce moment-là, je les envisagerais indissociables. Mais dans un premier temps, j'ai bien été obligé, enfin, j'avais envie aussi de les caractériser individuellement, quoi. Je veux dire, Jacques, c'est qui? C'est quoi ses parents? C'est quoi son milieu social? C'est quoi sa passion? Il a une passion pour le modélisme, par exemple. Pourquoi pas les petites maquettes? Elle est plutôt partie sur d'autres trucs, la variété, voilà, elle a un autre métier. Bon, ben, on les traite un peu séparément. Ils n'ont pas exactement la même situation familiale. Elle a perdu son père. Lui pas, il travaille avec son père, bon voilà. Mais à un moment, effectivement, ça y est, ils se mettent ensemble. Et alors, c'est vrai qu'ils deviennent à ce moment-là ce qu'on connaît chez pas mal de couples qu'on fréquente, y compris dans sa propre vie, une sorte d'unité insécable, quoi. C'est d'où le côté Jeanne et Jacques. Jeanne et Jacques, comme si c'était un seul mot. Moi, j'ai grandi avec des couples comme ça que je voyais toujours à deux, quoi. Je les ai jamais vus séparément. Je veux dire, Mimi et Jean-Marie, quoi. Mimi et Jean-Marie, Mimi et Jean-Marie. Jamais Mimi. Mimi n'avait pas de vie autonome, c'était Mimi. Mimi, d'ailleurs, Mimi, qui était mon institutrice aussi, parce que c'est une copine de ma mère, mais il se trouve que j'étais à la maternelle avec elle. Oui, je raconte ma vie et je vous emmerde. Non, mais j'ai eu une déflagration linguistique quand j'ai appelé... Bon, Mimi, c'était Mimi, quoi. Non seulement c'était mon institut, l'ami de ma mère, et en plus la mère d'un de mes copains, c'est super, quoi. J'ai toujours aimé cette femme et je l'aime encore beaucoup maintenant. Et j'apprends à 15 ans qu'en fait, Mimi, c'était Mimi, quoi. C'était Marie-Françoise. Ah, putain. Là, tout est tombé, quoi. Marie-Françoise. Et donc, Mimi et Jean-Marie et tout ça. Donc, c'est indissociable. Donc, moi, Jeanne et Jacques, Jeanne et Jacques. D'ailleurs, j'ai un peu travaillé mes prénoms comme ça. Bon, travailler, c'est un bien grand mot, mais il fallait bien que je leur
Jeanne
donne
Moreau,
des prénoms.
Jeanne Moreau, quand même.
Alors, Jeanne Moreau, c'est venu après. Je vous dirai pourquoi. Mais simplement, au départ, j'étais attention sur les prénoms. D'ailleurs, Jeanne, je crois qu'on ne connaît pas son nom de jeune fille. Je le mentionne pas. Donc, quand on l'a, voilà. Mais Jeanne et Jacques, moi, j'ai essayé de trouver deux prénoms qui allaient bien ensemble et qui formaient pratiquement un truc. Alors, évidemment, il y a l'assonance en J que je trouve intéressante, comme si il y a une espèce de destin linguistique à ce qui se rencontre, quoi, ce qui est faux. Mais et Jeanne et Jacques, je trouve ça sonne bien. Alors, évidemment, pourquoi Jeanne et Jacques et pourquoi pas Jacques et Jeanne? Ça, c'est les mystères de l'usage. Parce que vous disiez tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait une logique à ça. En fait, ce que vous vouliez dire, c'est qu'il y avait un automatisme qui se met en place, mais qui est précisément n'a pas de logique. Ou alors, il y aurait peut-être une logique vaguement linguistique ou musicale, c'est que spontanément, les amis de Jeanne et Jacques vont tous décider sans décider que Jeanne et Jacques sonnent mieux que Jacques et Jeanne, quoi. Mais en fait, il n'y a même pas, on ne pourrait pas dire, oui, on met en général au début la femme et en deuxième l'homme, ce n'est pas vrai, en fait. On trouvera de tout dans nos amis. Philippe et Christiane, par exemple. Bah, souvenez-vous de Philippe et Christiane. Philippe et Christiane, les amis de mes parents. Voilà. Et alors Philippe, oui, il était un peu que tard. Voilà. Bah, tous les Philippe sont un peu que tard.
On sent que vous les aimez, ces personnages.
Et que tard, oui, j'aime bien. Ouais.
J'évoquais un précédent roman tout à l'heure qui s'appelait, il y avait Ma cruauté, mais je pense notamment plutôt à Un enlèvement. Là, et les titres avaient leur poids. Il y avait justement ce couple, alors on ne va pas parler très longtemps de lui quand même, mais ce couple de bourgeois macronistes, cadra. Et alors eux, vous ne les loupiez pas. Bah, on sentait que vous n'étiez pas en amitié profonde ni en tendresse profonde pour ce couple à qui vous décochiez pas mal de coups de griffe. Là, Jeanne et Jacques, mais je me trompe peut-être, on a le sentiment d'une tendresse permanente pour ces personnages. Pourtant, Jacques, voilà, stade 2 dans son canapé pendant que Jeanne est en train de faire à bouffer. Enfin, cette distinction très genrée des gens, il peut y avoir un côté un petit peu exaspérant. Vous ne les jugez à aucun moment, Jeanne et Jacques.
Bah, disons qu'il y aurait deux raisons pour lesquelles. Bah, si je prends cet exemple précis de stade 2 pendant que Jeanne fait la cuisine, comment dire ça reviendrait un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur œil politique, œil. Autre œil, l'œil politique voit tout de suite, c'est hyper genré, heureusement qu'on est un peu sorti de ça, évidemment pas beaucoup, mais quand même on a un peu progressé depuis. Bon, mais même mon œil politique n'accablerait pas Jacques, parce que mon œil politique connaît trop trop bien le poids des structures, que ma foi, le pauvre Jacques, d'une certaine manière, c'était un homme de son temps, éduqué comme on éduquait les hommes dans son temps, et on en est encore très largement là, mais a fortiori, je dirais, dans les campagnes des Mauges, ou dans les années 50, quand a grandi Jacques, et puis 60, les problématiques d'égalité entre hommes et femmes, les problématiques de partage des tâches ménagères n'étaient pas là. Donc je pense que même Jeanne, je pense, n'accède pas vraiment à l'idée que c'est quand même dégueulasse qu'ils sont en train de regarder Stade 2 pendant que moi je turbine à la cuisine. C'est comme ça que ça se passait. Majoritairement, il y avait déjà des avant-gardes qui essayaient de remettre en cause tout ça, mais peut-être dans d'autres milieux, peut-être dans des milieux plus éduqués, comme on dit, plus bourgeois d'ailleurs, paradoxalement, bon, etc. Donc non, quand je raconte ça, moi, à aucun moment, je pourrais en nourrir une sorte de petite distance avec Jacques, quoi. Au contraire, il est ce qu'il est, il était de son temps, il regarde Stade 2. Par ailleurs, j'ai plutôt de la sympathie pour un type qui regarde Stade 2, que j'ai beaucoup regardé moi-même dans mon enfance, donc je trouve pas ça indigne de regarder Stade 2. Donc il y a plein de trucs que fait Jacques que j'aime bien. Même par exemple, Jacques est chasseur. Je suis pas un grand fan politique de la chasse, mais encore une fois, quand on est romancier, ce qui, dans mes grands moments de lyrisme plus ou moins aviné, il m'arrive de dire que précisément, si jamais la bonté chrétienne existe, c'est dans le roman. C'est-à-dire que cette capacité de juger personne, de prendre tout comme c'est. Et moi, je vois que c'est en tant que romancier que j'arrive à cette bonté dont je suis bien incapable dans la vie. Où je juge, je sélectionne, je déteste des gens, etc. Quand je suis romancier, vraiment, je suis capable d'une certaine bonté, c'est-à-dire de regarder tous les gens comme ils sont, de les prendre là où ils sont, et sans effectivement tout de suite frapper de jugement les choses. C'est vrai qu'un enlèvement... Vous faites bien de parler de ce livre, c'est un livre qui me pose encore un problème 4 ans plus tard et qui m'a posé un problème d'écriture et qui était celui-là précisément, parce que peut-être pour la première fois dans mon travail, j'allais accompagner moi pendant 200 pages un couple que je n'aimais pas et des gens pour lesquels j'ai quand même une grande réticence. Et ça a été compliqué à écrire ce livre pour ça, parce que je n'y retrouvais pas mes automatismes habituels qui sont plutôt, en tant que romancier, je dis bien, des automatismes de compréhension, d'accompagnement presque. Voilà, prenons les gens là où ils sont et comme ils sont. Et puis, essayons d'être le plus juste avec eux, mais sans pour autant les stigmatiser ou les montrer du doigt. Je pense que j'y suis quand même un peu arrivé avec le narrateur qui était le père. Il y a plein de choses qui débordent de sa condition. Et moi, au bout du compte, c'est un personnage pour moi, pour lequel j'ai une certaine tendresse. Emmanuel, il s'appelait. C'était pas rien. Et elle s'appelait Brune. Alors, souvenons-nous du premier macronisme. Il y avait une Brune qui traînait dans le coin, dans la ministre, qui maintenant est allée travailler dans le privé, bien sûr. Quel est le destin de tous les macroniens. Donc, ce n'était pas un couple macroniste, d'ailleurs, c'est un couple macronien. Ce n'est pas pareil. Ils n'étaient pas explicitement macronistes, mais ils étaient macroniens avant Macron. Ils étaient une certaine bourgeoisie contemporaine. Tout ça. Et elle, je dois dire, et ça reste un sujet pour moi, un problème. Je pense que je lui ai laissé aucune chance. Et non, vraiment, c'est rare dans mon travail. Franchement, même quand je croise des personnages qui, dans la vie, n'auraient pas ma sympathie, je m'arrange toujours pour leur donner des bonnes raisons ou des raisons, comme disait Renoir. Là, Brune, c'est vrai que là, j'ai essayé, hein, j'ai relu les évangiles avant d'écrire. Brune, j'y arrivais pas. Mais aussi parce que Brune, où je pourrais sauver un peu ma gueule. Mais c'est des vrais problèmes. Là, je réfléchis en vous parlant, parce que c'est vrai, ma religion n'est pas faite. Mais Brune est une dominante. Elle est, pour moi, la domination. Elle est actuellement le stéréotype qui, précisément, domine la société. C'est cette idéologie qui domine, ce sont ces gens-là qui sont les 4 dirigeants. Et donc, à ce titre-là, je trouve que le roman peut quand même s'autoriser à rectifier un peu le rapport de force. C'est-à-dire que tu nous fais tellement chier à longueur d'année que dans un roman, je peux me permettre un tout petit peu d'aller te titiller. C'est comme ça que je me sauvais moi-même quand j'écrivais ce personnage. Mais je crois que ce roman est discutable.
Bon, en tout cas, on a compris beaucoup plus de tendresse pour Jeanne et Jacques. Eux, vous les accompagnez, on le disait, sur le temps long, 5 décennies, donc une traversée en accéléré des années 70 à la fin des années 2010. Vous disiez que ça faisait partie du cahier des charges de ce roman, d'avoir quelque chose de très condensé. Il fallait que ce soit un roman court. Toute la question ensuite est comment faire ça. Qu'est-ce qu'il y avait de stimulant pour vous dans cette extrême concision et comment on écrit, comment François Bégodeau écrit à l'épure?
Il me semble quand même que... Il me semble disons, d'après ce que j'entends quand mes lecteurs ou lectrices témoignent de leur lecture de mes ouvrages, je suis plutôt un écrivain qui va plutôt dans la concision. On ne peut pas dire que je sois extrêmement incontinent quand j'écris. Bon, donc la concision, c'est mon lieu littéraire. J'essaie toujours de ramasser des trucs, de comprimer un petit peu le sens dans des phrases. Et je ne m'étale pas beaucoup. Il a pu m'arriver de donner dans l'étalage, mais c'était dans des situations bien particulières. Donc, bon, bah, je suis un peu chez moi quand même. Quand je me mets en demeure de devoir raconter 50 ans en 100 pages, je ne me sens pas très dépaysé de ma manière habituelle, quoi, parce que j'ai un style assez elliptique. Bon, mais là, c'est vrai que c'est la version hardcore de l'ellipse, quoi. Je suis jamais allé aussi loin. Mais j'aime bien l'idée qu'écrire, c'est raboter, quoi. Vous avez un matériau vivant qui est la vie de deux personnes, laquelle vit. Aussi ordinaire soit-elle, pourrait tout à fait être traitée sur 30 000 pages. J'aurais pu parler de Jacques et ça aurait pu être un projet, quoi. Vraiment, au jour le jour, Jeanne et Jacques auraient mille choses à dire, en fait. Toutes les vies sont des planétariums, comme disait Sarraute, quoi. C'est vaste, une vie, même dans le tout venant. Donc, c'était possible. Mais là, le choix, c'était vraiment d'être au noyau, quoi, comme on dit, à l'os. Accru, c'est-à-dire vraiment essayer de résumer une situation en deux, trois traits, quoi. C'est une histoire de croquis, quoi. Si ce livre était un dessin ou était pictural, ce serait vraiment un dessin très épuré qui serait presque réductible à son trait, où il n'y aurait pas de couleur, il n'y aurait pas comme ça toute cette épaisseur, quoi, qu'il y a dans un tableau. Ce serait des traits. Je croque un peu. Je pense qu'il y a un élément de BD, je crois, un petit peu dans ce livre. J'y réfléchissais rétrospectivement, ce n'était pas du tout prémédité, mais je me dis qu'il y a... Parce que le BD, c'est un peu de l'épure aussi, quoi. C'est des trucs en mouvement et vous déramenez ça à 6 cases, quoi. Vous êtes une page. Donc vous êtes obligé d'aller croquer l'essentiel, quoi, de réduire le truc à la quintessence. Ça, c'est un boulot intéressant, quoi. En fait, vous nettoyez. Enfin, c'est comme si. C'est un mode d'écriture, quoi, de nettoyage de l'inessentiel, de ramener le truc au minimum nécessaire pour faire exister la chose.
Alors, quand vous parlez de nettoyage ou de rabotage, comment ça se passe? Quel est l'artisanat exactement? Certes, vous disiez la concision, c'est déjà votre terrain de prédilection, mais vous rabotez encore derrière, vous repassez sur un texte déjà concis pour enlever ce qui n'est pas essentiel.
Bah, en fait, pour être tout à fait dans la cuisine et pour schématiser un peu, parce que d'un livre à l'autre, ça se joue autrement, mais pour être clair et donner quand même une ou deux billes là-dessus, pour moi, chaque roman appelle 5 ou 6 repassages en entier. Bon, ce que je pense tous les romans aussi font ça, je crois. Et alors, je vois bien que, pour vraiment, j'hyper-schématise, mais pour quand même que ce soit un peu clair et que je ne sois pas dans une espèce de confusion, je dirais que les 3 premiers passages ont tendance à faire grossir le texte, à vous étoffer. Et les 3 derniers, au contraire, ça y est, vous retirez. Dans les 3 premiers passages, vous pouvez encore ajouter du matériau, parce qu'il se trouve qu'entre un passage et un autre, une version et une autre, bah, vous est venu d'autres idées. Vous avez des idées d'étoffage des personnages ou des situations. Ah tiens, ça serait pas mal qu'à un moment, il fasse aussi ça. Donc vous ajoutez des trucs. Et puis après, les derniers passages, c'est le contraire. Vous rabotez. Donc là, je pense que première mouture de l'amour, ça faisait quelque chose comme 90 pages. Deuxième mouture, 130. Troisième mouture, 100, je schématise, hein, mais 140, 150. On est quand même dans des petites variables puisque le livre est court. Et après, ça y est, c'est parti. On va être sur les purs, les purs, les purs, les purs. On retire des trucs, on rabote, on ratisse, quoi. Enfin, c'est comme ça que ça se passe toujours pour moi. Sachant que j'adore les 3 derniers passages, c'est ce que je préfère, quoi, quand vous avez l'impression d'enlever la graisse. Et de ramener les choses au trait le plus simple, en fait. Ce qui fait qu'après, ça donne un. Bon, notamment ce livre-là, d'ailleurs, je crois qu'il est un livre très stylistiquement très épuré, quoi. On ne peut pas dire qu'il soit très démonstratif d'une sorte de virtuosité linguistique. Mais il faut bien comprendre aussi que des fois, vous rabotez, c'est aussi raboter. Vous avez eu une trouvaille stylistique, par exemple une métaphore. Et donc là, elle est dans la V3, celle-là, quoi. Puis vous faites la V4, vous repassez, puis vous retombez sur cette métaphore dont vous étiez très content en V3. Vous dites, ah, c'est quand même une belle trouvaille, ça. Puis en fait, là, en V4, non, c'est bon, non, non, c'est trop. Cette métaphore est trop, c'est trop imagé, c'est trop m'as-tu vu, c'est trop démonstratif, ça fait trop, regarde, je fais style. Donc vous enlevez. Moi, je suis plutôt cet écrivain-là. C'est-à-dire que, donc, il faut être un peu. Je pense qu'il me semble que les gens qui écrivent, il faut qu'ils passent par un moment de cruauté avec eux-mêmes. Et oui, il faut être cruel avec soi-même.
Alors, on ne sera pas que dans la tendresse. Il y a un troisième personnage dont il faut qu'on parle quand même avant la fin de cette rencontre, c'est le temps, qui est vraiment aux côtés de Jeanne et Jacques pendant tout ce roman. C'est leur liant, c'est aussi leur réalité, c'est ce qui a le pouvoir de les séparer, puisqu'à la fin du temps, il y a la mort.
Putain, ça, c'est pas une bonne nouvelle, alors.
J'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez rendu concret un personnage aussi abstrait, aussi conceptuel, hein, le temps, ça pourrait être un sujet de philo, quasiment. Là, vous vous êtes notamment amusé, je crois, avec les objets du quotidien.
Bah oui, effectivement, je pense que la philosophie prendrait le temps de façon assez abstraite. Elle viserait à un certain concret, mais elle en passerait par l'abstraction. Et je dois dire que quand je suivais les cours de philo sur le temps, ça ne m'évoquait rien. C'était vraiment le sujet que je détestais le plus. Je n'ai pas fait des études de philo, mais disons que j'ai suivi quelques cours de philo. Et non, ça ne m'allait pas du tout. Je ne me repérais pas là-dedans. Donc, en fait, moi, le temps, il va m'intéresser. Et ça, c'est là que je suis romancier, plus que philosophe. Il va m'intéresser Louis Saint-Carne, quoi. C'est-à-dire, quelles sont les marques du temps, comme on dit. Bon, ben ça, tout le monde les connaît. On dit d'ailleurs de quelqu'un qu'il a été marqué par le temps. Ou des expressions un petit peu plus triviales, genre « il a pris cher ». Ça, j'aime bien ça. Ça, c'est vraiment sympa, quoi. On dit souvent ça des acteurs ou des actrices. C'est-à-dire, on les revoit, là, ça fait 30 ans qu'on ne les a pas vus. Ils repassent à la télé. Ils n'ont pas fait de pime depuis 30 ans. Maintenant, ils vivent dans le sud, dans le Luberon. Ils ont une maison. Et là, oh, il a pris cher. Ouais. C'est cruel, tout ça. D'ailleurs, suivre un acteur ou une actrice au fil de ses films, c'est le voir vieillir. Intéressant, ça. Alors, parfois, c'est des gens qui vieillissent bien, comme Gérard Depardieu. Vieillit bien, le mec devient un mec bien, quoi. Au départ, moi, j'étais... Là, moi, voilà.
Je pensais qu'on allait parler de Jeanne Moreau et vous nous amenez sur Gérard Depardieu.
Ah oui, Jeanne Moreau, elle a pris cher, quand même. Elle est même morte, non ? Non. Ça, c'est quand même triste, un monde où Jeanne Moreau est déjà morte et pas Michel Drucker. Les gens, c'est toujours les pires qui partent les premiers. Enfin, au contraire. Non, donc les marques du temps, et donc les marques du temps, c'est plein de choses. Et donc, on va noter qu'à un moment, Jacques a pris de la bedaine. Ça serait des marques du temps, genre il a pris cher. Mais on va le noter au passage, comme ça, parce que tiens, ouais, il peut plus. Ouais, les hommes grassissent avec le temps, voire grossissent, les femmes aussi, mais on dit beaucoup des hommes. Ah, il a son petit ventre de cinquantenaire. Me disait récemment ma fiancée, avant de me quitter. Elle a trouvé un mec qui a un ventre plat. Enfin, ouais, et puis, il y a les marques objectives, effectivement, les marques, je dirais, oui, objectives, c'est-à-dire qui ne concernent pas les corps, mais qui sont le passage du temps, au sens où nos environnements matériels changent avec le temps. Et ça, bah oui, oui, à un moment, il n'y avait pas de portable, puis après, il y en a. C'est pas rien. C'est un sacré changement dans les vies, quand même, parce que c'est des gestes réels, quoi. Et puis, il y avait des objets qu'il n'y a plus. Il y avait un certain type de meubles dans les intérieurs à une époque. À un moment, ce type de mobilier-là a eu tendance à disparaître, remplacé d'ailleurs parfois par une absence de meubles ou par d'autres types de meubles. Bon, bah, là, on va noter ça au passage, et c'est ça qui va faire que le lecteur va ressentir le temps. Parce que si je lui disais, hé, le temps passa. C'est pas passionnant, quoi. Il faut qu'ils ressentent. Donc, il n'y a aucune formule dans le livre de « Le temps passa » ou « 5 ans passèrent » ou « 5 ans passent » puisque c'est au présent. Mais j'ai essayé d'incarner ces choses. Oui, puis alors aussi à travers les présidents de la République qui succèdent. Bon, bah oui, quand vous dites Pompidou, tout de suite, ça, c'est toute une époque qui apparaît. Et si vous dites Sarkozy, c'est une autre époque. Et puis d'autres gens, enfin... Évidemment, les chansons, ça, c'est des bons marqueurs temporels. Là, je n'ai rien inventé parce que la littérature fait un usage extrêmement immodéré des chansons pour marquer le temps. Mais c'est vrai que c'est super parce que c'est notre patrimoine commun, les chansons. Et donc, si vous dites « Weekend à Rome », je pense qu'il y a pas mal de quinquas ou sexagénaires. Tout de suite, bam, années 80, quoi, tous les 200 personnes. Je préfère te dire, j'ai failli perdre mon sang-froid. Quelle chanson !
Mais le passage du temps dans ce livre n'est pas linéaire. Il y a des moments où il se distord vraiment. Vous l'avez dit, vous passez 20 pages au début à accompagner la petite vingtaine de Jeanne et Jacques. Et puis, il y a un moment où tout s'accélère. Parfois, vous nous laissez le temps de quelques scènes d'accompagner Jeanne et Jacques, en tout cas d'être un petit peu dans leur vie, de voir quelque chose se passer. Et puis, en deux, trois paragraphes, on se retrouve 10 ans plus tard. Page 18, ils se voient pour la première fois. Page 36, ils font l'amour pour la première fois. Page 46, il se marie. Page 50, elle est enceinte. Page 51, le gamin fait du judo et joue aux échecs.
Il est hyper fort, le gamin. En une page, il est bon judo, quoi.
D'ailleurs, ça fait écho à ce que vous disiez au début de cette rencontre, peut-être, sur ce qu'on garde, en tout cas ce qu'on raconte de la vie du couple ou de la famille. Comment vous avez choisi, si tant est que vous l'avez réellement choisi et que c'est un choix conscient, ce qui surnage dans cet écoulement du temps, ce qui est digne d'intérêt et ce qui va être totalement élipsé, par exemple ce fameux gamin qu'on retrouve quasi adulte, en fait, dans le livre.
Ben, je dois dire que c'est compliqué de rendre compte de ça, parce que je pense que si j'avais à réécrire le livre demain, peut-être que je ne choisirais pas les mêmes périodes. En fait. Ça dépend aussi de l'ordre un peu du récit. Et moi, je voulais que le livre soit très tuilé, comme on dit. C'est vraiment une continuité où tout s'enchaîne. D'ailleurs, il n'y a pas de chapitre. Et donc, du coup, il y avait des fois des choses qui me permettaient de passer d'un truc à l'autre. Et du coup, je me retrouvais là. Et du coup, j'avais ellipsé quelque chose sans vraiment avoir prémédité que je l'ellipserais. Donc, ça a eu des choix comme ça, un petit peu au petit bonheur, un petit peu en avançant à vue. Et peut-être que je pourrais raconter telle période plutôt qu'une autre, ellipse et d'autres. Après, il y avait quand même un peu des passages obligés. Le mariage, c'est un peu un passage obligé. J'avais envie de le traiter. Peut-être que je le traite un peu de biais, mais je le traite quand même. Le premier enfant, j'avais envie de le... Enfin, leur seul enfant, d'ailleurs, mais en tout cas, premier néanmoins. Évidemment, fallait le traiter. Mais pareil, je le traite un peu de biais. Je crois que tout est là-dedans. Quoi. L'important, c'est comment on aborde le sujet. Quoi. J'aime bien aborder les choses par des portes latérales. Moi, c'est un peu mon truc. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choix qui sont, je dirais pas arbitraires, hein, mais qui sont discutables. En fait, vous pouvez repasser 50 fois la même vie et en fait, ça sera jamais la même topographie narrative. C'est ça qui est passionnant, en fait. Donc, j'aurais pu peut-être davantage focaliser sur telle chose et moins sur d'autres. Je suis allé un petit peu là où je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes à dire. Ce qui m'intéresse sur l'enfant, là, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, il y a plein de choses qui m'intéressent dans ce que c'est que d'avoir un enfant. C'est une grande affaire. Là, c'est ce qui m'intéressait à l'image de ce livre, qui est un livre très matérialiste. Matérialiste voulant dire, nous sommes des êtres matériels et notre vie, elle est d'abord matérielle. C'est ça que ça veut dire, c'est pas autre chose. Ça peut vouloir dire plein d'autres choses, mais là, ça voulait dire ça. Bon, ce qui va m'intéresser dans l'enfant, c'est pas la joie d'avoir un enfant, parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ou la joie, ou la peine, en tout cas la déconvenue. Enfin, il y a plein de choses, il y a mille façons d'avoir un enfant, comme on sait. Tout ça est très riche. Là, c'était vraiment comment c'est d'une donnée matérielle. C'est important, c'est intéressant de le raconter comme ça, de dire, ce qui ne veut pas dire que, bien sûr, Jeanne et Jacques n'aient pas été assaillis de bonheur au moment où ils ont eu ce premier enfant ensemble. Mais pour autant, et de façon contiguë, c'est immédiatement des problèmes matériels, notamment dans les couples un peu prolos, parce qu'à l'époque, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils en auront jamais beaucoup, mais à un moment, ils vont un peu monter quand même. Mais là, au début, bon, bah... Et donc, le premier truc, quand Jeanne dit à Jacques qu'elle est enceinte... Jacques, le premier truc auquel il pense, c'est pas « Oh là là, c'est génial, chérie, je te paye le resto, on se fait un flunch ». Enfin, tu vois, le truc vraiment... c'est-à-dire le grand jeu, quoi, le grand jeu. Et il dit « Oui, enfin bon, où est-ce qu'on va le mettre ? Où est-ce qu'on va le mettre ?» c'est ça la vie des gens, quand même. En tout cas, les prolos, des gens pour qui tout de suite, c'est un problème matériel. Et ce qui, encore une fois, et l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être très heureux d'avoir un enfant et quand même avoir immédiatement comme pensée « Waouh ». Complications. Et puis après, comment est-ce qu'on va s'organiser pour le garder, le faire garder, ou alors alterner entre nous pour le... Et c'est là qu'on arrive au judo. Tiens, il faut quand même l'emmener au judo. Bon, qui va le faire alors qu'on bosse ? Moi, ça m'intéresse tout ça parce que c'est nos vies, quoi. C'est nos vies, à part peut-être des gens qui seraient complètement soustraits à des impératifs matériels. Ça, c'est des gens plutôt des hautes classes. Mais le tout venant, c'est qu'on a des considérations matérielles. Même moi, on me demande souvent, t'écris à quelle heure de la journée, tu te mets dans quel état pour écrire. Je peux répondre à ces trucs comme ça, mais je peux raconter. Mais je dis aussi, moi j'habite tout seul, il y a un moment, il faut que j'aille acheter à manger en bas. Quoi. Enfin, et donc, il y a aussi ça, dans une journée d'écrivain, y a des fois des trucs très très, tiens, je vais aller au Naturalia ou au Franprix, parce que j'habite à Paris. Qu'est-ce que je vais me faire aujourd'hui ? Une petite barquette de carottes râpées ? À un moment, je ne suis pas que en train de me dire comment je pourrais faire le livre le plus beau du monde et comment je pourrais négocier ce chapitre. Il y a les deux en moi, mon corps est parfois entraîné dans des considérations très esthétiques, puis parfois très matérielles et parfois dans le même geste. Quoi. Moi, j'essaie d'écrire comme ça, j'essaie de rendre compte de ça, quoi, de cette totalité des situations.
Je termine par vous, François Bégodeau. Le roman débute en 1900. Parlons de vous. Le roman débute en 71, qui est aussi votre année de naissance. La vie de Jeanne et Jacques court en parallèle de votre existence. Et puis, il y a un petit jeu qui s'est glissé dans le livre « À Luçon où je suis née ». Qu'est-ce que vous faites dans ce roman, hein ?
Bon, alors premièrement, j'aime bien m'amuser avec la présence du jeu dans tous mes livres. Donc voilà, je pourrais épiloguer, mais ça ne va pas être le lieu. Mais j'aime bien ça. Ça m'intéresse beaucoup d'un moment de faire surgir le jeu dans des moments où il n'est plus du tout attendu. Parce qu'effectivement, là, j'organise ou j'installe mon lecteur dans une narration à la troisième personne. On va dire Jeanne fait ci, Jacques fait ça. Et tiens, un jeu apparaît alors qu'il était absenté. Donc bon, j'aime bien les petites déflagrations comme ça. Je trouve que c'est un effet de surprise que je trouve intéressant. Et voilà, je pourrais en dire beaucoup plus là-dessus. Mais plus anecdotiquement, j'aimais bien signaler à mon lecteur que entre moi et mes personnages, il y avait quand même une proximité géographique. Ça se passe dans les Mauges, qui est donc une région qui est essentiellement dans le Maine-et-Loire, mais qui déborde un petit peu, pas loin d'ici. Et moi, je suis vendéen. Enfin, j'ai grandi en Vendée. En tout cas, bon, ma famille est vendéenne. Après, on est monté à Nantes, mais... Donc, bon, la Vendée des Mauges, c'est pas très loin. Et en plus, c'est assez, comment dire, c'est assez homogène comme mode de paysage agricole ou rural, et peut-être aussi mode de mentalité. Donc, bon, voilà, c'était une façon de signaler que j'étais pas loin, que ce que je suis en train de raconter, c'est pas mes parents du tout, c'est pas. Mais on est dans ma patte à moi, c'est le disons. Bon. Je pense qu'on a tous une. Comment appeler ça ? Une petite patte de départ. Dont on fait ce qu'on veut d'ailleurs, et qu'on peut tout à fait déconstruire, remodeler. Voilà. C'est pour ça que les identitaires ne comprendront jamais ce que c'est que la vie. Mais il y a une petite patte, il y a une espèce de. Comment appeler ça ? Une sorte de socle matériel de notre personnalité. Moi, mon socle matériel, ça ne veut pas du tout dire que ça m'épuise, que ça me réduit, et que vraiment je serais ça fondamentalement. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais mon petit socle à moi, c'est, je dirais, le monde rural vendéen. C'est ça, c'est mon truc d'enfance, ça. Ça vous poursuit toute votre vie. Il y a un truc comme ça qui expliquerait quand même un tout petit peu de la tendresse que j'ai pour ces gens, quoi. Parce que c'est comme si c'était un peu mon petit lieu de départ, quoi. Et après, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on le revendique. Je revendique ma vendéitude et je suis pour la Vendée indépendante et que Devilliers soit le roi de Vendée. Je n'irai pas là-dedans, évidemment. Mais je trouve que c'est intéressant d'identifier en soi-même l'espèce de petit logiciel matériel qui nous constitue en partie, parce qu'après plein d'autres choses se font. Après, on découvre des punks américains, des écrivains russes, des cinéastes iraniens, et on les aime autant. J'aime autant Dostoïevski que Devilliers, par exemple. Je tenais à le dire.
Merci beaucoup, François Bégodeau.
C'est moi.
L'amour, Jeanne et Jacques Moreau. On a essayé de ne pas tout vous dévoiler de ces 90 pages. Vous pouvez maintenant, si vous le voulez, échanger avec François Bégodeau en chair et en os, juste à côté, au stand de la librairie, pour une séance de dédicace. Merci encore à vous.